Le premier déplacement du regard par rapport aux travaux menés jusque-là a consisté à s'intéresser davantage aux acteurs de l'école, c'est-à-dire aux enseignants et aux communautés rurales, ou plus exactement aux enseignants dans les communautés rurales qui le faisaient vivre, plutôt qu'à l'école stricto sensu. Et dans le sillage d'une historiographie renouvelée des communautés rurales pendant la Révolution française, qui avait fait remonter aux années 1760 les racines des attitudes collectives observées dans les villages pendant la Révolution, que ce soit les travaux de Jean-Pierre Gessen, de Georges Fournier, de Roger Dupuis, etc., il m'a ensuite semblé nécessaire à moi aussi d'élargir le spectre chronologique de mon étude. En la matière, il m'a également semblé pertinent de repartir des années 1760. Outre les conclusions récentes de l'historiographie, une autre raison au moins justifiait ce choix. C'était le fait que dans le sillage de l'expulsion des jésuites hors du royaume de France dans les années 1760, ces années 1760 ouvrent pour quatre décennies au moins d'intenses débats sur l'instruction publique, la place de l'État dans l'organisation de l'instruction publique, la place des enseignants dans la société, etc. Alors, pour mener à bien cette recherche, il m'a fallu constituer un corpus documentaire. Et là, c'est la partie compliquée, puisqu'en l'occurrence, aucune série cohérente, aucune enquête d'époque globale ne permettait à elle seule de faire le tour de la question. J'ai donc pris le parti de chercher les maîtres d'école de partout où j'étais susceptible de les trouver, sans exclusif documentaire, dans tout un tas de documents de nature très diverse, des textes de loi, des délibérations villageoises, des contrats d'engagement de maîtres d'école, des procès-verbaux de visite pastorale, des requêtes d'enseignants, des archives administratives, des registres de baptême, mariage, sépulture, des rôles d'imposition, des inventaires après décès, etc. Ces documents, je les ai cherchés à la fois aux archives nationales, dans le cadre d'une enquête que je voulais d'échelle nationale, mais les archives nationales ne permettaient pas à elles seules de faire le tour de la question, tout simplement parce qu'elles conservaient surtout des archives d'époque révolutionnaire pour mon sujet. J'ai donc également décidé de m'appuyer sur un échantillon de 11 départements. On pourra en reparler tout à l'heure au moment des questions, si vous voulez, pour savoir comment je les ai choisis, en croisant différents critères en l'occurrence, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus tout de suite. À partir de ce corpus, fondamentalement hétérogène, j'ai vu s'esquisser plus que de fortes nuances régionales, surtout des lignes de force communes, quel que soit l'endroit où on se trouvait dans le pays, des lignes de force communes avec suffisamment de netteté, en tout cas, pour pouvoir me risquer à partir d'elles à quelques conclusions d'ensemble, des conclusions d'ensemble qui m'ont conduit à distinguer un avant et un après automne 1789, et à l'intérieur du moment révolutionnaire, trois sous-périodes. La première qui allait de l'automne 89 au printemps 94, une seconde qui allait du printemps 94 au printemps 95, et enfin une période finale qui allait jusqu'au printemps 1802. Donc, je vous propose maintenant d'entrer dans le détail de ces périodes et de mes principales conclusions, en commençant par la première de ces périodes qui court du milieu du XVIIIe siècle à peu près jusqu'à l'automne 1789. Et cette période est marquée par une dynamique fondamentale. Une dynamique fondamentale qui est plus ou moins aboutie selon les villages, selon les provinces, mais qui est toujours en cours, quoi qu'il en soit. Et ce processus fondamental, c'est un processus d'appropriation locale de l'école et de la fonction enseignante. Les trois dernières décennies de l'Ancien Régime peuvent en effet être comprises comme un temps d'affermissement de l'école comme institution de proximité. Et à vrai dire, ça n'allait pas forcément de soi, dans la mesure où, au XVIIIe siècle, deux autorités extra-villageoises au moins revendiquaient l'exercice d'une tutelle étroite sur l'école et les enseignants et se pensaient comme les prescripteurs des usages scolaires devant s'appliquer dans toutes les communautés de leur ressort. Ces deux autorités qui se voulaient les prescripteurs des règles scolaires, ce sont les évêques d'un côté et les intendants de l'autre. À compter des années 1730 en particulier, les évêques se sont mis en effet à rédiger des règlements de police intérieure des écoles qui sont de plus en plus précis au cours du XVIIIe siècle, et par ces règlements, les évêques témoignaient de leur ambition de prendre totalement en charge les petites écoles, de réglementer intégralement ces petites écoles, en y définissant aussi bien les livres qui seraient utilisés, que les pratiques pédagogiques qui seraient utilisées, que les savoirs qui seraient transmis par les maîtres d'école. Dans ces règlements, les évêques ambitionnaient également de déterminer les fonctions et la conduite que les maîtres d'école devraient adopter aussi bien à l'école que dans l'église ou dans la société, dans l'espace public, avec l'idée de faire du maître d'école un auxiliaire du curé, pieux et totalement dégagé des affaires séculières. Ce sont les évêques, encore notons-le, aussi bien selon la législation royale que selon la législation synodale, qui devaient donner leur accord préalable au recrutement d'un maître d'école après inspection des qualités des candidats aux fonctions de maître d'école. Et ce sont les évêques encore qui devaient donner leur accord pour la destitution, le licenciement des maîtres d'école. En droit, les villages n'avaient donc pas l'autorité éminente sur les écoles, c'étaient les évêques. Les intendants, de leur côté, qui eux représentent la monarchie, exigeaient des localités au XVIIIe siècle qu'elles leur fassent systématiquement parvenir les contrats de recrutement des maîtres d'école afin que les intendants approuvent ou rejettent ces contrats par ordonnance, de manière à pouvoir contrôler très précisément les dépenses qui étaient engagées par les communautés rurales pour l'entretien de l'école. Au besoin, les intendants entendaient prescrire les formes des dépenses qui allaient être engagées. Est-ce que c'était des dépenses sur les revenus communaux ou par création d'un impôt local, si vous voulez. Et les intendants entendaient aussi pouvoir interdire à certains villages d'avoir des maîtres d'école s'ils pensaient que la dépense était trop lourde. Et on le comprend, car dans les villages à école, il se trouve que la présence de l'école est souvent la dépense la plus lourde engagée par la communauté. Entre 30 et 50% à peu près des revenus de la communauté sont facilement dépensés pour la présence d'un maître d'école. Or, ce qu'il faut noter, c'est qu'en dépit de ces prétentions de l'État et de l'Église, les régents d'école de la fin de l'Ancien Régime se laissent d'abord définir par leur profonde insertion dans le tissu des affaires locales. Choisis en assemblée générale des habitants, rémunérés par les villageois, les maîtres d'école sont en effet perçus au XVIIIe siècle comme ce qu'on pourrait appeler des créatures des communautés d'habitants, des communautés qui les emploient et qu'ils ont pour fonction de servir. Servir, c'est le terme qui revient dans les contrats de recrutement des maîtres d'école. Quel service ? En l'occurrence, un service fondamentalement protéiforme. Les maîtres d'école, ils sont tout d'abord, je vous le disais tout à l'heure, on a une image du début du XIXe siècle ici, mais qui montre bien les choses, du maître d'école qui est figuré ici, là, donc c'est le personnage qui est là, comme chantre principal lors des cérémonies religieuses à l'église. Mais le maître d'école, en plus d'être chantre, était également bedeau de la paroisse, sacristain, sonneur des cloches du village. Il était également remonteur de l'horloge communale, secrétaire greffier de la communauté villageoise. Il était également fréquemment arpenteur dans le cadre de la communauté. Cette pluriactivité fondamentale des maîtres d'école de la fin de l'Ancien Régime, elle s'explique sans difficulté en réalité. Les finances des communautés rurales étaient trop fragiles pour leur permettre de rémunérer un personnel spécialisé capable d'accomplir séparément chacune de ces fonctions. On a donc chargé une seule et même personne de toutes les accomplir et en l'occurrence, jusqu'à un seuil démographique assez précis. C'est environ jusqu'à 2000 habitants que le maître d'école est chargé d'accomplir toutes ses fonctions au service de la communauté. Au-dessus de 2000 habitants, en revanche, les localités ont les reins financiers suffisamment solides, pourrait-on dire, pour rémunérer un personnel spécialisé. Et du coup, au-dessus de 2000 habitants, les enseignants, les maîtres d'école, se recentrent sur la seule activité d'enseignement. Concrètement, pour le dire autrement, le village pour les maîtres d'école s'arrête vers 2000 habitants et au-dessus de 2000 habitants commence le monde urbain qui est un monde d'enseignement exclusif. En tout cas, en dessous, une seule personne, le maître d'école, accomplit donc toutes ses fonctions qui sont toutes liées entre elles par un point fondamental, rendre possible les manifestations de la vie collective villageoise. Ce sont toutes des fonctions qui permettent de dire l'existence du groupe local. On peut en détailler quelques-unes. Sonneur des cloches paroissiales, et là, je pense aux très beaux travaux d'Alain Corbin sur le sujet, le maître d'école est celui qui rythme et qui sacralise aussi bien les jours travaillés que les jours fériés, en même temps que c'est le maître d'école, en sonnant les cloches, qui rend sensible les contours du territoire villageois et qui a pour fonction aussi de protéger ce territoire villageois, puisque les villages étaient très attachés à une coutume à l'époque, celui de sonner les cloches par temps d'orage, avec l'idée que cela permettrait de protéger le territoire des nuées de démons que l'on imaginait cachés dans les nuits. Arpenteur, c'est le maître d'école qui avait aussi pour fonction de dire, sous forme de carte notamment, le territoire partagé de la collectivité. Chantre à l'église, c'est le maître d'école qui était la voix de ce plein chant liturgique auquel les villageois étaient particulièrement attachés et que les habitants concevaient à l'époque, lors de la grand-messe, comme le chant d'une communauté tout entière. Remonteur de l'horloge, qui était de plus en plus nombreuse dans les paroisses au XVIIIe siècle, c'était le maître d'école qui permettait d'informer du temps commun qui passe. Bedeau, sacristain, c'est lui qui permettait également d'assurer la propreté et la décoration du lieu de culte qui était aussi le lieu de la vie collective, très souvent au village à l'époque. Les maîtres d'école étaient enfin les vecteurs momentanés de la mémoire locale, à la fois par leur activité de secrétaire greffier du village, qui rédigeait les rôles d'imposition, les délibérations, mais également par leur voix, car les contrats de recrutement de maîtres d'école se montraient tout particulièrement insistants sur l'obligation faite aux maîtres d'école de chanter à l'église pour les offices funèbres et pour les messes de fondation en hommage des défunts du village. Alors, une fois qu'on est arrivé là, faut-il en conclure que les maîtres d'école, à la fin de l'Ancien Régime, étaient des personnages de première importance au village ? Pas du tout, en réalité. C'étaient des personnages tout à fait secondaires au village. Des personnages secondaires qui accomplissaient un service, et il faut ici bien comprendre ce que ça veut dire et entendre la chose en comprenant que pour les communautés rurales, le maître d'école était fondamentalement un serviteur, au sens de domestique du village qui était son maître collectif. Et il y a bien de fait une espèce d'empreinte domestique très forte qui planait sur les maîtres d'école de l'Ancien Régime. Ils étaient rémunérés comme des domestiques, avec des gages, avec des rémunérations en nature. Comme les domestiques, leur maître, ici la communauté d'habitants, prenait en charge leur emploi du temps quotidien, hebdomadaire et annuel. Comme les domestiques, les maîtres d'école devaient demander l'accord avant de pouvoir quitter le territoire villageois s'ils devaient aller régler des affaires en dehors du village. Comme les domestiques encore, ils étaient recrutés dans une aire géographique très courte au-delà du village, une quinzaine de kilomètres, qui était l'aire des interconnaissances autour du village, qui permettait de recruter quelqu'un de confiance. Et les maîtres d'école se plaindront parfois, à la fin de l'Ancien Régime, d'être considérés comme les valets de la communauté d'habitants précisément. En tout cas, on comprend que chaque village, à la fin de l'Ancien Régime, a eu le vif sentiment que les clauses qu'il rédigeait dans les contrats de recrutement des enseignants élémentaires lui étaient propres à cette communauté, irréductibles à l'échelle locale pour laquelle ces contrats avaient été définis par les habitants réunis en assemblée. Les contrats de recrutement des ruraux signale sans arrêt des contrats de recrutement des maîtres d'école ruraux, signale sans arrêt la volonté des villageois de voir la fonction de maître d'école se perpétuer dans la paroisse selon les usages locaux, selon la tradition de la communauté à laquelle le nouveau maître recruté ne devait rien changer. Et par là, les communautés villageoises indiquent également que pour eux, l'école se situait fondamentalement, à la fin de l'Ancien Régime, dans l'important complexe de la coutume villageoise, finalement. Et dès lors, peu importe que le pouvoir de diocésain ou les ordonnances des évêques prétendent réglementer l'activité, la fonction de maître d'école à la fin de l'Ancien Régime ne pouvait guère échapper en réalité au travail de codification locale. Le groupe des co-résidents définit l'école dans les contrats de recrutement qu'il passe avec les maîtres d'école parce que la fonction de maître d'école, en sens inverse, contribue à définir la communauté d'habitants. Et fait essentiel, me semble-t-il, qu'il faut remarquer, c'est que cet impératif de perpétuation de la communauté dans la culture et les pratiques partagées qui fondent l'identité du groupe local, cet impératif-là anime tout autant les pratiques strictement scolaires du maître d'école. Les pratiques scolaires du maître d'école, elles sont elles aussi définies dans les contrats de recrutement des maîtres d'école. Et là encore, on attend du maître d'école qu'il se conforme à la manière d'enseigner de ce village-ci, en respectant la tradition de ce village-ci et pas d'un autre. Et on admet très très mal les maîtres d'école qui vont par exemple prétendre au XVIIIe siècle introduire des innovations pédagogiques inspirées par les Lumières. Et s'il en va ainsi, si le village définit les pratiques pédagogiques du maître et s'il veut que le maître d'école respecte les pratiques traditionnelles du village de faire classe, c'est que au fond, l'école avait d'abord pour fonction d'apprendre aux enfants à faire communauté. Alors comment l'école apprenait-elle aux enfants à faire communauté ? On peut essayer de le comprendre. L'école permettait d'apprendre à faire communauté par une manière très particulière de faire la classe qui a totalement disparu à partir de la fin du premier tiers du XIXe siècle, mais qui était restée très présente dans les campagnes jusqu'à la fin du premier tiers du XIXe siècle. Concrètement, à l'époque, tous les enfants du village, même les enfants pauvres, à une époque où pourtant l'école était payante, participaient à une première étape de la scolarisation grâce, pour les enfants pauvres, à la solidarité villageoise qui payait le coût, supportait le coût de cette première étape de la scolarisation. Et cette première étape de la scolarisation, elle consistait à apprendre à maîtriser ce qu'on pourrait appeler la lecture religieuse, qui était également une lecture-récitation. Concrètement, l'école, ça marchait comment à l'époque ? On commençait par apprendre par cœur les principales prières chrétiennes. le Pater Noster, le Credo, l'Ave Maria, les choses comme ça. Ces prières, on les apprenait par cœur et ensuite on les récitait en cœur. Tous les enfants de l'école les récitaient. Une fois que ces prières étaient sues et qu'on était capable de les réciter, eh bien, les enfants apprenaient à les décoder alphabétiquement d'abord et puis ensuite par syllabe. Et une fois qu'ils étaient capables de comprendre l'encodage alphabétique et syllabique de ces prières qu'ils connaissaient déjà, alors les enfants apprenaient à les lire, ces prières qu'ils connaissaient déjà par cœur, à les lire collectivement, en l'occurrence, tous ensemble, sur des abécédaires. Or, on peut noter ici que ces prières étaient des prières en latin. Des prières en latin dans une langue que les enfants ne comprenaient pas. Et à ce stade-là, on ne leur explicitait pas le sens du latin, on ne leur en précisait pas le sens précis de ce que voulaient dire ces prières. Ce n'est que plus tard que certains élèves, mais certains élèves seulement, vont apprendre le latin et être capables de comprendre le latin. On était donc dans cette première étape de la scolarisation, celle ouverte à tous les enfants du village, à un stade de lecture pour laquelle le contenu impliquait moins que la forme. Et en l'occurrence, ici, le plus important, c'était de savoir réciter et lire en groupe les principales prières chrétiennes. L'école pour tous au village s'arrêtera là, à ce moment-là, car une fois cette lecture-récitation acquise, les enfants pauvres vont quitter l'école, les enfants les plus pauvres. Seuls les enfants, pour faire simple, on pourrait dire, pour résumer, des classes moyennes et supérieures du village, vont rester à l'école pour pouvoir acquérir d'autres savoirs, à commencer par la maîtrise de la lecture-compréhension. La lecture-compréhension sur des textes écrits en français, cette fois, qu'ils soient imprimés ou qu'ils soient manuscrits. Mais c'est également là qu'on va apprendre l'écriture. C'est là qu'on va apprendre le calcul également, des savoirs dont l'enseignement coûtait plus cher que celui de la lecture religieuse et que tous les parents ne pouvaient donc pas payer à leurs enfants. Tout en haut du cursus scolaire de l'école villageoise de l'époque, il y avait quelques places d'enfants de chœur dont s'occupait le maître d'école, des places d'enfants de chœur dont les notables villageois essayaient de réserver l'accès à leurs enfants, ce qui était un moyen pour eux, pour les notables du village, de renforcer leur prééminence symbolique au sein de la communauté. Chaque dimanche, à la grand-messe, quand toute la communauté serait assemblée, les fils de ces notables du village auraient leurs enfants vêtus de chasubles présents au chœur de l'église. Il y a, en tout cas, on peut le noter, une double implication et une double raison, pourrait-on dire, de cette imposition par le village de cette manière très particulière de faire classe. L'universalité de l'enseignement de la lecture religieuse et sa prise en charge financière par le groupe des co-résidents découle de l'exigence fondamentale de préparer la future intégration de tous les enfants du village dans la communauté. L'intégration des enfants du village dans la communauté, elle sera actée par le rite de la communion. Le rite de la communion qui était à l'époque autant un rite religieux qu'un rite communautaire, et la scolarisation avait précisément pour fonction de le préparer. Cela impliquait cette intégration future de l'enfant dans la communauté, que le futur membre de la communauté soit capable de se joindre au cœur villageois dans le temps de communion collective, dans les temps de communion collective, lorsque le groupe qu'intégrera l'enfant déclamera à l'unisson une même litanie religieuse et que le groupe se vivra donc à ce moment-là dans une sorte de communauté d'imagination et d'émotion. Et ces moments-là, c'est la grand-messe, les principales fêtes des saints du calendrier, etc. Il était donc essentiel pour préparer cette intégration que l'enfant sache maîtriser les fondements de la culture partagée du village, c'est-à-dire les principales prières récitées en ces occasions et les principales prières courantes également. Il fallait donc que l'enfant soit capable de dire exactement et sans variante les principales prières, celles qui seront récitées par le groupe. Il fallait donc à la fois qu'il ait appris déjà à réciter en cœur ses prières, et il aura appris à le faire à l'école. Et il est important, pour qu'on soit sûr qu'il puisse le faire sans variante, qu'il soit capable de s'aider du support de la lecture pour, à l'occasion de la messe, sur les livres d'église, être capable de s'aider des livres pour ne pas faire d'erreur et bien pouvoir se mêler au cœur villageois. Mais en restreignant ensuite l'accès des humbles à la culture écrite, la classe devenait d'une autre manière encore un miroir de la communauté. L'école devenait d'une autre manière encore, si on veut, un endroit où on apprenait à faire communauté, parce que l'école devenait un miroir d'une communauté qui est également socialement hiérarchisée. La société villageoise était un microcosme socialement hiérarchisé et l'école permettait aux enfants de l'apprendre et de le vivre déjà, pourrait-on dire. L'école contribue du reste activement à perpétuer les hiérarchies sociales internes au village. Elle les perpétue Eh bien, tout simplement parce que, donc, on a dit, les enfants les plus pauvres vont apprendre seulement la lecture-récitation des principales prières chrétiennes et resteront ensuite les enfants plus favorisés. Or, en l'occurrence, les savoirs que vont apprendre ces enfants plus favorisés sont des savoirs utiles socialement, mais ce sont aussi des savoirs qu'on pourrait appeler des savoirs dominants. Comprendre ce qu'on lit, être capable d'écrire, être capable de compter, ça va permettre de gérer ses affaires, ça va permettre de gérer ses comptes, ça va permettre également, par exemple, de gérer les comptes de la communauté, ce qui était très souvent la première étape du cursus honorum dans le gouvernement villageois. Et il n'est pas étonnant, à cet égard d'ailleurs, que les exercices d'arithmétique des écoles de village, à chaque fois qu'on arrive à les identifier, sont des exercices de calcul de prêt à intérêt. Le prêt à intérêt étant un des grands outils des notables de village, également pour entretenir des réseaux clientélaires à l'intérieur des communautés qui assurent leur domination. Bref, l'école avait une fonction collective de perpétuation du groupe qui était fort éloignée de l'idée moderne apparue au moment de la Révolution et des Lumières déjà d'une émancipation des individus par le savoir. C'était vraiment pas l'idée, c'était d'abord une fonction de perpétuation du groupe. En tout cas, on en est arrivé à un point où à la veille de la Révolution, le maître d'école est devenu l'un des symboles les plus visibles de l'existence du fait communautaire, de sa vitalité et de la perpétuation de la communauté dans le temps également. L'attachement des communautés rurales à l'école, l'importance que l'école a prise pour ces communautés, se laisse alors entrevoir, par exemple, eh bien, par les nombreux chantiers de construction de maisons d'école qui commencent dans les deux dernières décennies de l'Ancien Régime, qu'on identifie aussi bien en Picardie qu'en Alsace, en Bourgogne. Je vous mets ici quelques plans de maisons d'école retrouvées dans les archives alsaciennes, par exemple. Les communautés rurales, à la fin de l'Ancien Régime, demandent de plus en plus souvent à pouvoir construire des maisons d'école en s'endettant lourdement sur plusieurs années afin de construire ces maisons qui constitueront le patrimoine de la communauté, qui appartiendront au village et qui sont le plus souvent situées à proximité immédiate de l'église et du presbytère. Elles s'inspirent d'ailleurs souvent un peu du style du presbytère et qui rejoindront donc le cœur symbolique et on pourrait même dire le cœur pétrifié de la communauté d'habitants. Compte tenu de l'importance symbolique prise par l'école et ses maîtres au village, on ne s'étonnera pas alors, du coup, pour finir sur cette première période, des infractions répétées que les communautés rurales commettent vis-à-vis des obligations qui étaient théoriquement les leurs, celles qui étaient prescrites par la législation royale et synodale, à commencer par celle de demander l'autorisation aux évêques de recruter des maîtres d'école ou l'autorisation de l'évêque pour destituer un maître d'école, infraction également envers la règle d'adresser systématiquement les contrats de maître d'école aux intendants au moment où on les a recrutés. Les communautés rurales, concrètement, laissent de plus en plus libres les maîtres d'école de se conformer, s'ils le souhaitent, à l'obligation de se présenter à l'évêque afin qu'il juge de leur capacité. Mais si jamais les maîtres d'école ne le font pas, les communautés ne le feront pas à leur place. Tandis que, profitant d'un niveau d'encadrement de l'administration royale beaucoup plus faible que ce qu'on a longtemps écrit, eh bien, les communautés rurales parviennent sans peine et malgré les remontrances des intendants à échapper à la surveillance des intendants, n'envoyant pas les contrats de recrutement à ces intendants ou alors en le faisant avec un retard de plus en plus marqué, parfois en transmettant les contrats plusieurs années après qu'ils aient été conclus. En gardant pour eux les contrats de recrutement de maîtres d'école pendant un intervalle de temps de plus en plus long, les villages réussissent ainsi concrètement à faire fonctionner leur école en vertu des seules règles que les villages ont eux-mêmes déterminées. Et au sein de sociétés rurales où les revendications politiques passaient moins à l'époque par de grandes formalisations théoriques que par une mise en pratique de leurs attentes, cela faisait aussi de l'école, à la fin de l'Ancien Régime, l'un des réceptacles privilégiés de la grande aspiration qui traverse le monde rural et que l'on retrouve beaucoup dans les cahiers de doléances de 89, c'est-à-dire leur accès à une forme d'autogouvernement villageois que les villageois mettaient concrètement en œuvre à la fin de l'Ancien Régime, de plus en plus autour de l'école. Et c'est ainsi que débute la Révolution. Lorsque la Révolution commence, donc elle veut réorganiser l'instruction publique et elle espère, vous vous souvenez tout à l'heure, je l'ai dit, imposer le principe de l'État instructeur. Or, il se trouve que concrètement, il va falloir attendre l'automne 1793 pour que la première loi scolaire soit adoptée par les révolutionnaires. Première loi pour réorganiser concrètement l'instruction publique en fonction de leurs attentes propres. Ça veut dire qu'il va y avoir 5 rentrées scolaires qui vont se faire au début de la Révolution dans une situation de vide législatif à peu près complet. Et ces 5 rentrées scolaires qui se font dans une situation de vide législatif sont également marquées par la disparition assez rapide, en l'occurrence des autorités qui prétendaient exercer une tutelle sous l'Ancien Régime sur les écoles. Les intendants, dès 1789, disparaissent très rapidement, dès l'été-automne 89, et les évêques, quant à eux, vous savez, seront remplacés à partir de 1791 par des évêques constitutionnels qui ne prétendront pas exercer de fonctions scolaires telles que prétendaient les exercer les évêques de la réforme catholique. Du coup, de tous les anciens acteurs de l'école à la veille de la Révolution, il n'en reste qu'un, les communautés d'habitants. Et les communautés d'habitants, vous le savez sans doute, sortent précisément renforcées de la loi du 14 décembre 1789, qui, à partir des communautés d'habitants, ont instauré un régime local qu'on peut appeler de communaliste, reposant sur 40 000 municipalités communales dans le pays, auxquelles de très larges attributions ont officiellement été accordées dans la gestion des affaires villageoises, beaucoup plus largement que sous l'Ancien Régime. Or, profitant de cette situation, les communautés rurales vont considérer que finalement, désormais, il leur revient seul le droit de choisir leur maître d'école, indépendamment de toute autorité de tutelle, de les recruter, de régler leurs fonctions et de les licencier. Ces communautés rurales, ensuite, ces communes, désormais, se gardent bien de faire remonter, évidemment, ces contrats de recrutement aux nouvelles autorités auxquelles elles auraient pu être appelées en vertu des règles administratives à les transmettre, c'est-à-dire aux départements et aux districts à l'époque, qui auraient quand même dû surveiller ces contrats de recrutement de maître d'école, parce que département et district devaient surveiller les impositions locales, les dépenses locales. Or, en l'occurrence, les villages ne transmettent pas ces contrats de recrutement, ne transmettent pas les informations scolaires, y compris le montant des impositions locales qu'ils lèvent localement pour rémunérer les maîtres d'école, si bien que lorsque l'Assemblée nationale demande en 1792 aux départements et aux districts de leur faire un point sur la situation scolaire de leur territoire, ceux-ci sont quasiment incapables de dire ce qui s'y passe, parce qu'ils n'ont pas d'informations qui leur sont remontées. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que prendre la question de la communalisation qui s'opère à partir de l'automne 89 par le biais scolaire permet également de voir comment la Révolution, finalement, a su, ou comment les communautés villageoises ont su, dans les premières années de la Révolution, dépasser les distinctions censitaires que la loi avait prétendu établir à l'échelle communale, puisque vous savez, en 89, on établit un système censitaire, tout le monde ne peut pas voter, seuls les citoyens actifs peuvent le faire, et tout le monde ne peut pas être élu. Or, en théorie, on aurait pu s'imaginer qu'à partir du moment où les municipalités étaient instaurées, ce seraient les municipalités qui choisiraient les maîtres d'école. Eh bien, pas du tout. À partir de l'automne 89, alors que les municipalités existent, ce sont encore les communautés, les assemblées générales des habitants qui vont continuer de recruter les maîtres d'école en s'adossant aux municipalités qui sont bel et bien présentes mais qui se réunissent en même temps que l'ensemble des résidents pour choisir le maître d'école, lui imposer un contrat dans lequel on retrouvera les horaires d'ouverture de l'école, les périodes de vacances, les savoirs à enseigner, la manière de l'enseigner, les périodes d'ouverture de l'école, mais qui préciseront également toutes les fonctions collectives des maîtres d'école qui n'ont toujours pas changé, révolution ou pas, sonneur des cloches, bedeau, sacristain, chantre, etc. À partir de l'observatoire scolaire, il est donc permis de conclure que la large autonomie administrative conférée aux municipalités par l'Assemblée nationale constituante a moins permis finalement la survivance que l'épanouissement des pratiques communautaires coutumières. La Révolution française, en tout cas, bien plus qu'elle n'a contrarié dans un premier temps l'emprise de l'échelle locale sur l'école, a contribué, de 1789 jusqu'au printemps 94, à accentuer cette emprise locale sur l'école, malgré les déclarations de principe entendues à l'Assemblée nationale. Lorsque la première loi survient enfin, le 29 frimaire en deux, ça veut dire le 19 décembre 1793, la toute première loi scolaire, elle est adoptée fin décembre, mais elle sera appliquée seulement à partir du printemps 94. Cette toute première loi scolaire de la Révolution elle ne va pas fondamentalement changer cette donne. Et c'est ça qui est important, elle va même pas du tout changer cette donne, quand bien même cette toute première loi scolaire de la Révolution française, très tardive, faisait de toutes les écoles de la République, sans exception, des écoles publiques. En 1794-95, il n'y a pas d'école privée pour l'instant, il n'y a que des écoles publiques. Des écoles publiques qui étaient par ailleurs, un siècle avant Jules Ferry, à la fois gratuites et obligatoires pour tous les enfants de 6 à 8 ans. Or, très loin d'être un échec, comme on l'a longtemps affirmé, cette toute première loi scolaire de la Révolution française a rencontré un évident succès à travers tout le pays. Il n'y a jamais eu tant d'écoles publiques pendant la Révolution française que durant l'année durant laquelle cette loi scolaire du 29 primaire en 2 a été appliquée. Et non seulement les écoles publiques n'ont jamais été aussi nombreuses, mais elles n'ont jamais été aussi fréquentées. Et concrètement, ces écoles publiques ont permis à ce moment-là de préserver le maillage scolaire du territoire tel qu'il avait été hérité de l'Ancien Régime. Alors comment on peut expliquer ce succès de l'école publique jusque dans le monde rural ? Eh bien, certainement pas par l'acceptation d'un programme scolaire républicain ou révolutionnaire, puisque les législateurs s'étaient bien gardés de définir toute pratique pédagogique dans cette première loi scolaire et tout programme scolaire également. Les législateurs avaient très libéralement préféré abandonner la question des savoirs à enseigner à l'appréciation de chaque instituteur. En revanche, on peut expliquer ce succès de cette toute première loi scolaire par le très large degré d'autonomie qui a été conféré par l'Assemblée nationale, à l'époque pourtant où elle est dominée par les montagnards, très large degré d'autonomie conféré donc par la loi à l'échelle communale, dans le contrôle de l'école primaire, puisque c'est officiellement aux municipalités qu'a été confiée la surveillance des écoles primaires. En revanche, notons-le, les municipalités n'ont pas été dotées par la loi du pouvoir de nommer ou de destituer les instituteurs, puisque cette loi reposait, et elle est très étrange cette loi, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, elle reposait intégralement sur le principe de la liberté d'enseignement. Ça veut dire que toutes les écoles étaient publiques, pas d'école privée. Mais en revanche, tout individu qui souhaitait être instituteur pouvait librement ouvrir une école, ce qui veut dire qu'il pouvait y avoir plusieurs écoles par commune, à la seule condition de se faire enregistrer auprès de la municipalité où il souhaitait s'installer et présenter à cette municipalité un certificat de civisme, histoire qu'on soit sûr que ce n'était pas un contre-révolutionnaire. Or, les communes rurales vont parvenir de partout à élargir encore un peu plus les contours de cette municipalisation légale de l'école afin de s'approprier totalement cette école publique de manière à pouvoir glisser dans cette école publique l'ensemble de leurs usages scolaires traditionnels, en l'occurrence. Alors, par là, ce succès étonnant rencontré par la toute première école de l'histoire de la République française au moment de la pression centralisatrice maximale exercée par le gouvernement jacobin. On est 15 jours seulement lorsque cette loi a été adoptée, après l'adoption de la loi sur le gouvernement révolutionnaire, permet surtout cette loi et le succès de cette loi de montrer comment les communautés d'habitants ont su s'adapter au temps de la terreur et au projet centralisateur du gouvernement révolutionnaire. Les recherches, notamment de Jacques Perret et de Laurent Brassard, ont déjà montré la propension des communes rurales à adopter une attitude collective qui mêlait l'amortissement et ce qu'ils ont appelé le consentement partiel à l'égard des exigences de l'état d'exception en l'an 2. Pour résumer les choses, dans le cadre d'une contrainte négociée, ont montré Laurent Brassard et Jacques Perret, un compromis s'était esquissé entre les communautés rurales et l'État à l'époque. Pour faire simple, moyennant l'exécution de certaines tâches jugées comme prioritaires par l'État, notamment sur les réquisitions militaires, l'État et ses représentants locaux avaient maintenu une certaine tolérance à l'égard de la non-exécution locale de certaines lois, notamment dans le domaine culturel et religieux. Or, ce que montre le succès de la toute première loi scolaire qui est appliquée en 1994-1995, c'est que cette capacité des communautés rurales à amortir les exigences de l'État central à l'époque de la terreur, elle ne s'est pas résumée à d'accord, on applique certaines lois, bah notamment sur les réquisitions militaires, pour être mieux autorisé à ne pas en appliquer d'autres. Le succès de l'école publique dans les campagnes en l'an 2 montre surtout la capacité des communautés rurales à s'emparer de certaines lois adoptées par la Convention montagnarde jusque dans le champ des initiatives scolaires pour les adapter à leurs pratiques coutumières et à se ménager ainsi des sphères d'action autonomes dans le cadre de la loi. Partout, en effet, les communautés modulent les dispositifs de la loi du 29 primaire en 2 pour faire de l'école publique non pas le résultat d'une libre négociation entre parents et enseignants, comme le voulait le législateur, mais un champ d'expression de la communauté rurale tout entière. À la procédure simple d'enregistrement des candidats aux fonctions d'instituteurs devant le pouvoir municipal, les communautés rurales vont substituer quasiment partout, par exemple les trois quarts des communes rurales dans le district de Montdidier en Picardie, mais on retrouve ça dans le Finistère, dans la Drôme, un peu de partout. Les communautés rurales vont substituer une véritable nomination, effectuée une nouvelle fois en Assemblée Générale des co-résidents, alors que la loi n'avait certainement pas prévu que l'Assemblée Générale des co-résidents puisse se réunir pour cela, et elle n'était d'ailleurs pas du tout autorisée à le faire normalement. Et ce qui est important de noter, c'est que les autorités supérieures le savent. Les autorités supérieures le savent et ne remettront jamais en cause cette appropriation communautaire de la loi du 29 primaire en 2. Et on est bien là, si vous voulez, dans le cadre d'un compromis qui s'esquisse entre les communautés rurales et les autorités supérieures. C'est pourquoi les communautés rurales ont eu le sentiment au printemps 94, printemps 95, d'avoir acquis une sorte de compétence souveraine sur leur école, dont rend par exemple compte le propos de la commune d'Inval, en Picardie, lorsqu'après avoir choisi pour instituteur le citoyen Joyer, l'Assemblée générale lui donne, je la cite, l'Assemblée générale, plein pouvoir d'établir une école dans la dite communauté. C'est bien le village tout entier qui choisit d'installer son instituteur public et qui écarte les autres candidats qui n'ont pas été retenus. L'an 2 consacre ainsi près d'un demi-siècle de dynamique scolaire villageoise, et c'est en 94 et 95 que les villages parviennent enfin pleinement à être seuls aux commandes de leur école dans le cadre de l'école publique à cette date. Or, il se trouve que tout change à partir du printemps 1795, et ce sera la dernière période, date à partir de laquelle commencent à être appliquées deux nouvelles lois scolaires qui, coup sur coup, vont réorganiser en profondeur l'instruction publique. Ces deux lois, alors je passe rapidement, mais c'est la loi Lacanal d'abord et la loi Daunou ensuite. Or, ces deux lois ont pour particularité de créer pour la première fois un système scolaire dual. C'est à partir du printemps 95, lorsque va commencer à être appliquée la loi Lacanal, que pour la première fois pourront exister à côté des écoles publiques, des écoles privées. On a déjà évoqué le succès des écoles privées. Pour le comprendre, pas besoin de convoquer l'atavisme des populations rurales. En revanche, il faut rappeler que le directoire est une période marquée par un processus de très forte centralisation politique et administrative qui se traduit entre autres par la dissociation entre l'échelle des communautés d'habitants et celle de l'organisation administrative. À l'époque du directoire, les municipalités communales disparaissent, on leur substitue des municipalités cantonales, c'est-à-dire qu'on passe de 40 000 municipalités communales à 4 fois moins à peu près de municipalités cantonales. On est donc dans une période de dépérissement du pouvoir communal. Et cette évolution est très mal acceptée par les populations rurales qui restent attachées au principe de leur autogouvernement. S'opère alors une rupture, à ce moment-là, très nette, entre communautés d'habitants d'un côté et État républicain de l'autre. Une rupture qui se traduit à la fois par une attitude de résistance passive des villages à l'égard des injonctions des autorités centrales et, autre aspect, par un repli sur le cadre communautaire où la cohésion du groupe va désormais passer par la défense acharnée de ce qu'il reste des fondements de la communauté, c'est-à-dire son patrimoine matériel, ses bâtiments, mais également son patrimoine immatériel, c'est-à-dire ses pratiques religieuses et coutumières. Et c'est dans ce contexte d'ensemble auquel elle participe du reste activement qu'interviennent les lois Lacanal et les lois Daunou de 1795-96. Ces deux lois ont en effet en commun d'arracher l'école publique de la sphère des compétences communales en mettant concrètement en œuvre, enfin, en 95-96 et 98-99 jusqu'en 1802, le principe de l'État instructeur. Désormais, ce sont les administrations de département qui auront le pouvoir de nommer les instituteurs publics, mais également de les licencier. Ce sont également les administrations de département qui auront pour pouvoir d'adopter un règlement intérieur pour les écoles qui s'appliquera de manière uniforme à toutes les écoles de leur ressort. Ce sont enfin les administrations de département qui, pour la première fois, se voient investir de la fonction de dresser des cartes scolaires du territoire, les toutes premières cartes scolaires de notre histoire. Des cartes qui vont alors reposer sur un critère on ne peut plus rationnel, le critère démographique, une école pour 1000 habitants en moyenne. On est donc très loin de la géographie coutumière des villages qui leur avaient permis de se doter d'une école. Des communes qui avaient donc jusque-là eu un instituteur se verront soit imposer du dehors un instituteur public qu'elles n'auront pas choisi ou sur la nomination duquel elles n'auront pas eu de prise, ou bien au contraire se verront privées d'école et donc aussi de chantres, de secrétaires greffiers, de sonneurs des cloches, de remonteurs de l'horloge, etc., par une mesure de carte scolaire sur lesquelles ces communes n'auront eu aucune prise. L'école publique échappe ainsi à peu près complètement aux communautés d'habitants, à rebours des tendances à l'œuvre depuis plusieurs décennies. Et cette désappropriation soudaine de l'école fait alors de l'instituteur public l'un des supports sur lesquels peut se cristalliser localement la rupture qui s'opère entre communautés d'habitants et État. C'est ce que dit très bien un candidat malheureux aux fonctions d'instituteur public dans le village de Corret, en Côte d'Or, en Bourgogne. César Carpentier s'appelle-t-il. Il écrit cela, il dit « Il suffit que l'instituteur soit nommé par le département pour que les habitants ne veuillent absolument pas de lui. Ces villages n'ont pas de prise sur cette école-là et ils la rejettent. » Ce rejet de l'école publique va alors prendre pour forme principale non pas des écoles désertées par les habitants, mais tout simplement l'absence d'écoles là où elles auraient dû s'installer. On ne trouve pas de candidats pour les occuper. À une époque, il est vrai, où l'école n'était plus obligatoire et où elle n'était plus gratuite et où les instituteurs, même publics, devaient donc compter sur la rémunération des parents. Les instituteurs, s'ils étaient instituteurs publics, savaient bien qu'ils risqueraient d'être rejetés par les communautés, d'avoir peu d'élèves et donc de ne pas pouvoir vivre. Inversement, et je terminerai par là, rien n'a vraiment été prévu par la loi pour les instituteurs privés. Que ce soit pour leur procédure de nomination, leur procédure de contrôle, leur destitution, rien. Aussitôt, les villageois vont donc se tourner vers ces écoles comme d'un moyen de perpétuer leurs usages et leurs pratiques de l'école, non pas en infraction de la loi, mais dans le cadre d'une application de la loi, puisque la loi autorise les écoles privées, pour mieux échapper à d'autres dispositions légales. Finalement, les communautés rurales jouent avec la loi, un dispositif légal contre un autre. Et il est significatif de cette appropriation de l'école privée comme moyen de perpétuer leurs usages de la communauté que, en fait, sous le directoire, eh bien, les villages, pour choisir leur instituteur privé, se réunissent de nouveau en assemblée générale des habitants. Ils se réunissent en assemblée générale de tous les habitants et non pas seulement des parents d'élèves. Et ils décident à tous les villageois qui sera instituteur privé. Tous les villageois décident de le rémunérer collectivement et non pas seulement les parents d'élèves. C'est l'Assemblée générale qui, une nouvelle fois, va fixer un règlement communal disant les heures d'ouverture de l'école, etc., mais également que le maître d'école privé devra sonner les cloches, remonter l'horloge, être secrétaire greffier, etc., etc. Bref, autour du choix de l'instituteur privé, la communauté retrouve temporairement son visage politique, sa fonction délibérative et son expression collective à un moment où les communes ont officiellement disparu et la communauté se donne de la sorte à voir. Elle se donne à voir d'abord à elle-même en mettant en scène vis-à-vis d'elle-même sa propre unanimité. Et en somme, à travers l'école privée, la communauté d'habitants a réussi à se perpétuer dans l'informel institutionnel qui était désormais le sien. L'école privée a permis au village de démontrer que, a permis de démontrer, notamment aux autorités supérieures, que la communauté entendait rester souveraine pour tout ce qui concernait la vie locale. Au fond, et ce seront mes mots de conclusion, l'école privée, durant le directoire, fut donc surtout une institution publique, mais d'échelle communale. Et au terme, c'est cette conception de l'école comme institution de proximité qui devait l'emporter jusqu'au niveau du pouvoir central, puisque lorsque Napoléon, à l'époque du consulat, remettra en ordre le système d'instruction publique pour qu'il soit plus conforme à ses attentes, la nouvelle loi scolaire qui sera adoptée au printemps 1802 redonnera aux municipalités les pleins pouvoirs en matière scolaire. J'aurais aimé ici dire, mais j'ai mangé tout mon temps, que cette emprise du local sur l'école ne veut certainement pas dire, en revanche, que les idées contre-révolutionnaires ont été dominantes à l'école, puisque ce sont tout au long de la Révolution, les communautés qui ont une emprise extrêmement forte sur leur école, ce sont aussi les communautés qui vont déterminer le contenu politique de l'enseignement délivré par les instituteurs. Là où les communes rurales seront majoritairement révolutionnaires, l'instituteur délivrera un enseignement révolutionnaire. Et ce n'est que dans les villages à dominante contre-révolutionnaire que les instituteurs privés ou publics délivreront un enseignement contre-révolutionnaire. En somme, l'enseignant, il n'a pas le pouvoir de faire basculer une communauté dans un camp politique ou un autre, mais il accompagne l'opinion dominante du village. Et il est symptomatique de ça que les instituteurs les plus républicains qui existent très nettement aux villages, qui font de leur école littéralement une petite république, se trouvent très souvent dans des villages qui ont changé de nom pendant la Révolution pour prendre des noms révolutionnaires. C'est bien la preuve que c'était des communes révolutionnaires, ou dans des communes où il y avait des clubs jacobins. Et les communes où il y avait des clubs jacobins, c'est 10% seulement des communes rurales, à peu près à l'époque. Voilà, je vous remercie.